Ce matin, le colloque de Bruxelles. Tous les ans, depuis 2001, l'Université libre de Bruxelles et France Culture organisent ensemble, à l'initiative de Michel Cazenave, un colloque afin de réfléchir de façon atypique à un certain nombre de questions théoriques qui traversent le monde contemporain. Loin des querelles de clans et de pouvoir, ces colloques ouvrent des perspectives en soumettant les thèmes de leurs travaux à la plus grande diversité des points de vue. Ainsi, pour le 6e colloque de Bruxelles, l'intitulé était-il cette année « Psychologie, idéologie et philosophie, la psychothérapie ou les psys en question ?» Réévaluer le rôle social de toute psychologie possible, confronter sur le terrain culturel les différentes pratiques thérapeutiques dans le monde, démystifier la psychologie comme science, élaborer de nouvelles manières de penser et de pratiquer les multiples registres du psychologique, risquer sans cesse la modestie des démarches et ouvrir sur une anthropologie renouvelée, tels sont les objectifs inscrits au programme de ce colloque. Philosophe et psychanalyste, Miguel Benassayag est aussi un ancien combattant de la guérilla guevariste en Argentine, où il a passé plusieurs années en prison. Depuis son arrivée en France, à sa libération, il réfléchit inlassablement aux moyens de rester fidèle à l'exigence de liberté et de solidarité des luttes révolutionnaires passées, tout en tirant les enseignements de leurs échecs. Dans le journal en ligne Périphérie, il déclare, je cite, « Tenter de changer le monde en étant prisonnier de l'idéologie ne mène nulle part. Je me suis mis à travailler en tant que chercheur, sans jamais abandonner mes rapports avec des groupes militants. Je me suis penché sur la critique de la psychiatrie, les mouvements internes de la médecine, sur l'anthropologie, sur la philosophie. Je suis convaincu que sans transformation par capillarité, par les micro-pouvoirs, comme disait Foucault, il n'y aura jamais de transformation de notre société. » C'est dans cette optique que Miguel Benassayag est intervenu dans ce colloque sur le thème psychanalyse et dimension politique.
L'intitulé de mon intervention est psychanalyse et politique, si j'ai bien lu. Et donc, c'est la question du politique. Alors, hier, effectivement, quand El Caïm posait la question de la politique, la question de l'engagement politique dans les rapports cliniques, j'ai commencé à dire ce que je vais essayer aujourd'hui de montrer, d'étayer, qui est la question de le rapport du politique comme des cohérences régionales, comme des cohérences situationnelles. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, la question de l'engagement, la question du politique, de l'époque dans la clinique est centrale, mais elle n'est pas centrale dans le sens de dire droite, gauche ou tel engagement concret macro-politique ou social, etc. Mais c'est une question d'un comment ceci se joue à des niveaux différents, dans des cohérences différentes, qui ne poussent absolument pas du côté du relativisme, car le principe, lui, il est universel dans chaque situation. C'est tout bêtement comme on peut lire Spinoza, n'est-ce pas, c'est-à-dire c'est que ce qui est le bien ou le mal, c'est ce qui est bon ou mauvais dans la situation, chose qui ne va pas vers le relativisme. C'est un principe universel, mais qui n'a pas une réponse pré-situationnelle ou trans-situationnelle, n'est-ce pas? Donc pour moi, ce que je vais essayer de montrer, c'est ça, c'est-à-dire comment le rapport du politique à la psychanalyse, je le pense, avec des problèmes concrets que je vais vous exposer, mais à niveau des cohérences différentes, c'est-à-dire que par exemple, jamais je crois que quand on est en séance, il est question de autre chose, de ce qui se joue dans l'ici et maintenant, dès la consultation, pas une consultation, mais disons la prise en charge, et non pas savoir quels sont les engagements philosophiques ou politiques de notre patient ou lui faire part des nôtres. Bon. Cela dit, sans petite parenthèse, effectivement, la neutralité et les choix de l'analyste, là je parle de l'analyste ou du psychothérapeute, n'est jamais neutre du tout. Hein. C'est-à-dire, je suis conscient tout à fait que quand quelqu'un vient me voir dans mon cabinet, dans le 11e arrondissement, c'est absolument pas pareil, c'est ni mieux ni pire, mais c'est absolument pas pareil que quand on va Michel-Ange à l'Auteuil, par exemple, dans des cabinets où tout est dit. Et j'ai fait remarquer simplement comme ça que mes chers collègues, chers surtout, ils appellent systématiquement neutre le fait d'être très bourgeois. Et c'est-à-dire que si vous avez un intérieur très bourgeois, qui est très cousu, etc., et effectivement, ça, c'est neutre. Bon, voilà. Alors, moi, je suis pas tout à fait neutre, parce que mes moyens ne me permettent pas d'être neutre à ce point-là. Je parle en tant que psychanalyste. Hein, quand je suis arrivé en France, au fur et à mesure que je faisais mes équivalences, j'étais d'abord en supervision, en contrôle à l'Institut, à l'IPA, avec une didacticienne de l'Institut. Donc, après, par connaissance et amitié envers Dolto et Maud Manoni, j'ai viré un peu de ces bords-là. Et ce qui m'avait attiré chez Maud Manoni, c'était surtout sa proximité envers la psychiatrie alternative, l'antipsychiatrie, Bonneuil, etc. Et aussi, ce qui m'avait vraiment beaucoup touché, c'était son petit essai, que le titre est le plus important que tout le reste, qui s'appelle « La théorie confiction ». C'est-à-dire qu'elle n'était pas une dogmatique. Elle acceptait quelque chose qu'avec plus de 20 ans de métier, pour moi, est devenu une réalité. C'est que ce dont on parle, on ne les trouvera jamais. C'est-à-dire qu'il n'existe nulle part le ça, le moi, l'inconscient. C'est-à-dire sont des fictions opératoires que si on croit que ceci existe autrement que situationnellement comme une plus ou moins bonne fiction opératoire, on se met le doigt dans l'œil. Alors, donc, j'ai travaillé beaucoup aussi avec Varela. Hein, j'ai une formation en neurophysiologie, j'ai une formation scientifique aussi. Bon, voilà. C'est pour dire que je parle depuis cette expérience-là. Et je ne cherche pas une identité. Mon problème, c'est pas si je suis psychanalyste ou si je suis pas psychanalyste. Je pense qu'on est dans une époque dans laquelle il faut chercher. Mais chercher non pas son identité, mais chercher. Il y a des choses à chercher, effectivement. C'est une époque de crise, c'est une époque très intéressante. Et la dernière chose à chercher, c'est qu'est-ce qu'on met dans sa carte de visite. Ça me semble que ça, c'est pas très intéressant. Alors donc, la question politique, la question de l'époque, se manifeste aujourd'hui dans les services de psychiatrie, de pédopsychiatrie, ou dans les cabinets privés du psy, par l'irruption de ce qu'on pourrait nommer sans doute une nouvelle le nouveau malaise dans la civilisation, le nouveau malaise dans la culture. C'est-à-dire que effectivement ces malaises là, cette crise sociale, cette crise historique a fait irruption dans nos cabinets. C'est-à-dire que nous avons du malaise, nous avons du mal à être, du mal à vivre, le mal de l'époque arrive dans notre cabinet, dans notre consultation. Dans les services de pédopsychiatrie 80% des consultations n'ont plus rien à voir avec ce pourquoi un psy est normalement formé. Ce qui arrive est la tristesse de l'époque. Il arrive la déception, la désolation d'une époque. Et on aurait tort de ne pas dire et ne pas voir quand même que nous ne sommes pas docteurs S époque. Ce qui caractérise cette crise, c'est la forme dans laquelle elle apparaît dans nos consultations. Et la cassure, bien entendu, tant parlé, tant menté, du mythe du progrès, de la téléologie, de l'historicisme. Effectivement, qu'est-ce qui se passe avec des enfants, avec des personnes qui sont nées dans un monde qui, depuis des siècles, pense que le futur est positif, hein, que l'avenir est positif? Et qu'est-ce qui se passe dans nos têtes, qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos contemporains, quand tout à coup, cet élément central du mythe du progrès qui est « demain, ça ira mieux », tout à coup se transforme en très peu de temps, en 30 ans, mettons, dans son contraire. Demain, ça ira pire. C'est-à-dire, comment ne pas comprendre qu'il est absolument impossible que ceci n'ait pas des incidences dans la tête, dans la souffrance, dans la façon de vivre de nos contemporains. Le fait de que cet élément central qui était, pour le dire comme ça, entre guillemets, fractal, c'est-à-dire que ça existait dans la macro-politique, mais aussi dans la vie individuelle la plus concrète, comment faire pour ne pas voir qu'effectivement, l'idée de que le futur qui était une promesse est devenu une menace, et que ça a des effets psychopathologiques. Alors je me souviens, un jeune qui était étiqueté, tout raison, peu importe, schizophrène, et alors il venait me voir comme ça tous les vendredis, et alors pendant des années il est venu me voir dans une sorte de contrôle, je sais pas, on sait pas trop pourquoi est-ce qu'on reçoit parfois les gens, et à chaque fois il me disait pendant des années, mais ça va mieux. n'est-ce pas? Et alors vous imaginez, ça va mieux, c'est-à-dire au bout de quelques années d'aller mieux, c'est-à-dire je ne savais pas si est-ce qu'il allait devenir astronaute, polytechnicien, je ne sais pas, prix Nobel, mais ça allait mieux. Et tout bêtement, ce qu'il y avait ces jeunes hommes, c'est qu'ils savaient que ça va mieux, c'est-à-dire qu'on est dans des projets, il y a un progrès, n'est-ce pas? Et alors qu'est-ce qui se passe quand tout à coup, on pense que dans le futur, au contraire, ça va aller pire? Hein, c'est-à-dire, alors cette inversion du mythe, c'est, à mon avis, c'est à quoi nous avons affaire dans l'immédiat dans nos consultations. Hein, c'est-à-dire, par exemple, qu'un môme qui est au CP sache que s'il ne fait pas les devoirs, c'est pas qu'il va être grondé par papa, mais qu'il sera chômeur, rémiste, etc. Que quelqu'un qui tout le temps à la télé, à la radio, on sache que demain on pourra plus aller se baigner à la plage parce que les désastres écologiques, parce que les maladies émergentes, vous voyez, c'est-à-dire que cette ambiance comme ça de catastrophisme, eh bien, elle est effectivement pathogène. Et alors vous savez comment ça se passe, c'est-à-dire les gens, ils considèrent que les mauvais moments, c'est pas eux. Et qu'ils ont tendance à s'identifier, les individus comme les sociétés par ailleurs, ils s'identifient au bon moment, c'est-à-dire c'est cette tendance de croire que voilà, quand ça va bien c'est moi, quand ça va mal je suis victime d'une influence quelconque, une pathologie, une époque, peu importe, une surdétermination quelconque. Alors donc bon, effectivement, tout à coup la rupture du mythe du progrès nous oblige à repenser cette idée que après une époque obscure il y a peut-être une époque lumineuse, sauf que après une époque lumineuse il y a une époque obscure. N'est-ce pas? C'est-à-dire que la conséquence immédiate de la rupture de toute maxi-téléologie ou mini-micro-téléologie, c'est de se dire, bon, effectivement, je suis moi, comme une époque, comme une société est-elle, quand ça va bien, comme quand ça va mal. C'est-à-dire, cette idée quand même de réentrer en amitié avec ces moments où ça ne va pas. Et ça, c'est quand même effectivement un tout petit peu cette rupture comme ça du mythe aussi de la modernité, dans laquelle, vous savez, c'est cristallisé dans cette idée de Descartes, de que entre ce que la tête comprenait et pensait et le corps qui suivait, que soit la tête et le corps social aussi, n'est-ce pas, il y avait la glande pinéale. Vous savez, il y avait la glande pinéale. Alors donc, ce qu'on comprend, la glande pinéale fait passer au corps et le corps suit. Et alors donc, nous nous trouvons avec des patients qui sans cesse n'arrêtent pas de comprendre ce qui se passe, à l'instar de nos sociétés, et ils se disent, mais comment faire pour que ce que je comprends puisse passer à des actes, hein? Et alors ça, c'est un des éléments propres qui sont ni sociales ni individuelles, elles sont transversales à notre époque, à tous les niveaux que nous soyons. C'est-à-dire, on ne sait plus. Hein, c'est-à-dire que socialement, on n'arrête pas d'être informé des choses, et nos sociétés ne savent pas comment réagir. Hein. Alors c'est drôle parce qu'il y a souvent, je suis invité à intervenir dans des débats dans lesquels on parle des journalismes et des informations. Et la question que je me pose, c'est, mais oui, très bien, la désinformation est quand même quelque chose qui ne va pas s'emporter un tout petit peu de narcissisme, parce que ça implique de dire, mais si tu étais informé, tu réagirais énormément. Or, la vérité, c'est que le problème, ce n'est pas la désinformation dans nos sociétés. Il y a de la désinformation, nous sommes tous au courant. Le problème, c'est un autre, qui est celui de la glande pinéale, n'est-ce pas, de Descartes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand tu es informé? Et alors ça me fait rire parce qu'il y a peu de temps j'étais invité à Brive-la-Gaillarde dans une truc comme ça, bon, sur la désinformation. Il y avait un tas de gens là qui râlaient parce qu'ils étaient désinformés, on nous dit rien, on nous cache tout. Et alors bon, la seule question que tu as envie de dire, c'est oui chérie, mais qu'est-ce que tu ferais si tu étais informé? Parce que par rapport à tout ça dont tu es informé, tu fous rien, n'est-ce pas? Bon, et c'est quand même ces malaises-là de qu'est-ce que j'ai fait par rapport à l'information que j'ai. La différence entre information et connaissance, la connaissance en exigeant le dépassement de la division tête, esprit, corps, n'est-ce pas? La connaissance, c'est ce qui ne s'inscrit plus dans cette différence-là. L'information, c'est ce qui arrive simplement à la terrasse, n'est-ce pas? Eh bien, c'est quand même quelque chose qui fait assez malaise-là. Et la psychanalyse, elle n'est toujours pas, tout bêtement, pas à la hauteur. La psychanalyse n'est absolument pas à la hauteur de ces défis-là, quoi. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est ça. La psychanalyse n'est pas à la hauteur de cette époque triste. Et alors, effectivement, nous sommes là, vous savez, les milieux psychanalytiques, il est spécialiste là-dedans, mais il n'y a pas que les milieux psychanalytiques. Mais bon, je parle, il faut toujours critiquer. C'est-à-dire, moi, je pars de la base qu'un des principes éthiques, c'est quand on est quelque chose, on doit être le critique principal de cette chose-là. Et les anciens Mao, les anciens Trotsky, les anciens marxistes disent, mais comment on a pu croire à ça? Et alors, effectivement, on est un tout petit peu, on était habitué à ces déceptions amoureuses, ces dépits amoureux, vous savez, c'est-à-dire, ah, oh, mais comment j'ai pu aimer Marinette, maintenant je déteste Marinette, vous savez, et Spinoza, il dit quelque chose de très drôle que Macheret a souligné, c'est-à-dire qu'on aime et on déteste pour la même raison. Et alors donc, on était habitué à dire, à entendre les gens dire, comment puis-je être marxiste, comment je puis aimer un tel leader, je comprends pas. Mais avec la psychanalyse, on n'était pas encore là, et apparemment on est là. Il y a des gens qui disent, mais comment ai-je payé les crédits de mon analyste pendant si longtemps? Je voyais bien qu'il déménageait systématiquement, et moi je restais toujours dans mon studio pour payer mon analyste. Et alors, voilà, la déception énorme, n'est-ce pas? Or, le problème c'est que les groupes politiques, les idéologies, la psychanalyse, l'efficacité des thérapies ou des groupes politiques ou des groupes d'avant-garde n'ont jamais presque rien à voir avec les groupes lui-même ou avec les contenus du discours. Ça a à voir avec une époque. Chaque époque porte une puissance qui permet que des théories, des groupes, des pratiques thérapeutiques fonctionnent. Mais elles ne fonctionnent pas pour des raisons purement intrinsèques à cette théorie ou à ces groupes-là. Elles fonctionnent parce qu'elles sont agencées avec une époque. Eh bien, la psychanalyse ne peut pas être comprise simplement de par la caricature qu'elle a tendance à devenir, c'est-à-dire cette somme de précieuses ridicules qui pleurent, mais la psychanalyse, il faut quand même la comprendre dans cette rupture épistémologique d'une époque à l'autre époque. Effectivement, on n'a pas à dire « mais comment j'ai pu m'allonger chez machin ?» C'est-à-dire, à l'époque, m'allonger chez ma jambe, ça avait une signification qu'elle n'a plus aujourd'hui, peut-être. N'est-ce pas? Alors donc, on ne peut pas comprendre ça en bloc. Comme on ne peut pas comprendre l'efficacité de quoi que ce soit, en oubliant que l'efficacité de quelque chose dépend surtout d'être porté par la vague. Et quand la vague se retire, effectivement, il reste là, comme ça, quelques nageurs, qui avaient profité, par exemple, pour enlever les maillots de bain et faire pipi, hop! On les voit là, et parce que la vague s'est retirée, vous voyez, c'est pour donner une image philosophique. Alors effectivement, la psychanalyse aujourd'hui, pour moi, présente des pratiques disciplinaires et des pratiques sacrificielles. Je me demande souvent, comment comprendre, par exemple, quand dans une petite chambre, il s'appelle une salle d'attente, il y a par exemple 10 intellectuels, qui sont des profs, des fac, des chercheurs, des artistes, des gens tout à fait désabusés, qui ne croient plus aucune idéologie, qui font des retours de tout, surtout de là où ils ne sont pas allés jamais. Ils sont des retours, mais tout à coup, il sort un personnage assez bizarre qui dit « vous ». Et il choisit quelqu'un dans la salle d'attente, en laissant de côté l'effet de qui est arrivé premier ou dernier. Vous rentrez pendant 10 minutes... 10 minutes si c'est votre jour, sinon 5. Et au bout de 5 minutes, il répète les derniers mots que vous avez dit ou pas. Il vous demande 100 € et vous partez. Comment comprendre ça, sinon pas comme une sorte de pratique sacrificielle, moderne, n'est-ce pas? Voire une séance d'humiliation pour intellectuels désabusés. Notre époque, quoi? Notre époque, effectivement, c'est l'époque de... Boum! On a l'éruption de la complexité. Hein? L'éruption de la complexité, ça veut dire, bon, effectivement, cette idée téléologique de que la tête et l'advènement de l'esprit, bon, tous les éléments comme ça, la téléologie, sont cognés contre la complexité. Cette complexité, elle, pour moi, prend la forme, entre autres, le retour du corps, le corps qu'on allait panoptiquer, qu'on allait dresser, qu'on allait absolument connaître, etc., discipliner, eh bien, le corps revient. Et le corps revient là où, je rappelle la phrase de Jacques Lacan, ces corps qui restent divisés, corps-esprit, n'est-ce pas, et dans cet ultra-cartésianisme de Lacan, Lacan écrit, ou dit, et après il est écrit, et le corps est ces morceaux de chair déchus de sa mère. Alors les morceaux de chair déchus de sa mère, effectivement, qui s'articulent étonnamment très bien avec le narcissisme de notre époque, apparemment, eh bien ces corps-là, ils reviennent. Alors reviennent comment? Ils reviennent comme un défi que la plupart des collègues ont du mal à relever. C'est le défi de la non-séparation du corps et l'esprit, ou qu'est-ce que ce soit, mais de voir quand même que le corps, il est, à proprement parler, animé, avec tout ce que ça signifie que le fait qu'il soit animé. Que les corps pensent, ça veut dire quoi que les corps pensent? Les corps pensent, ça veut dire que le cerveau est un élément de plus dans les processus de pensée. Alors ça nous intéresse, la neurophysiologie bien entendu que ça nous intéresse. Ça nous intéresse parce que c'est intéressant d'étudier les éléments qui constituent les sous-bassements de la pensée, qui produit de la pensée. Mais ces sous-bassements-là, il est diffus, il n'est pas que centré sur la tête. C'est bien la différence entre un ordinateur en tant que machine état discret et la pensée d'un être quelconque, d'un humain. Pourquoi? Bien parce que le corps pense dans son ensemble. Hein, on est situé, on a un point de vue matériel, et on pense parce qu'on est situé, parce qu'on est corporel. Alors cette pensée corporelle, qui est une sorte d'RSI pour la plupart de mes collègues, et nous la constatons dans des trucs tout bêtes, et des expériences qui ne nécessitent pas des laboratoires, c'est-à-dire qu'il suffit de jouer au ping-pong. Si, quand vous jouez au ping-pong, effectivement, votre corps est en train d'éprouver, expérimenter et faire des calculs, des physiques, des mathématiques, et pour peu que Marinette vous regarde, aussi des narcissismes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, bon, n'importe lesquels de ces smatchs, ces revers, et je sais pas quoi que vous faites, si jamais vous les pensez, eh bien, vous perdez la balle. La conscience, donc, n'est pas annulée, on n'est pas du tout dans une condition irrationaliste, simplement, la conscience n'est plus cette instance centralisatrice, c'est moi centralisateur, c'est un élément de plus. Comme ce que j'ai présenté tout à l'heure par rapport aux organisations politiques, ou par rapport aux groupes analytiques, qu'on a cru qu'ils faisaient une époque, et en fait, on les comprend comme qu'ils accompagnent des processus, n'est-ce pas? La conscience, comme le moi, accompagne des processus, et c'est pas parce que la conscience toujours archi en retard, ou les moi qui essayent de s'accrocher dans la multiplicité pour dire je représente ça, je dirige tout ça, c'est pas parce qu'il dit je dirige tout ça que nous sommes obligés de le croire. Alors, ces sujets-là, tel comme je les pense, n'est pas un sujet identifiable avec l'individu. Je n'utilise pas plus tellement la catégorie même des sujets, ça me semble que la catégorie des sujets est une catégorie qui reste définitivement piégée dans l'idée d'individu. Quand quelqu'un dit à moi il m'arrive ça, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'à moi doit m'arriver ça? Effectivement, ces moi-là est une instance plus ou moins périphérique d'une multiplicité dans laquelle on refuse de reconnaître cette multiplicité des processus dans lesquels nous existons, qui sont notre existence, pour priorité une partie, n'est-ce pas, qui serait la bonne partie. Celle du moi, celle de la conscience, etc. Ce défi-là de la multiplicité est un défi que la psychanalyse, à mon avis, est en train de louper. Hein, c'est-à-dire les sujets divisés, etc., n'est pas du tout une véritable assumption de la multiplicité. Je pense que même quand la, entre guillemets, découverte freudienne de l'inconscient, c'est quand même un pas vers la multiplicité, pour une mise en cause, donc, de la conscience, mais un pas qui Freud rattrape, du coup, parce que l'inconscient, il redevient quand même, il est alors là, récolonisé par un moi qui est un moi plus affaibli, un moi questionné, un moi châtré peut-être, mais quand même, il existe dans la psychanalyse un geste de vers la multiplicité, c'est-à-dire on accepte qu'il y a des déterminations multiples, mais à mon avis, hop, on rattrape cette multiplicité parce qu'on essaie de la domestiquer comme un inconscient, etc. C'est-à-dire que, par exemple, quand le psychanalyste dit vous avez dit Toto, mais vous voulez dire Tata, eh bien, cette idée de qu'on pourrait interpréter un autre sens profond, effectivement, c'est là où on escamote la multiplicité. N'est-ce pas? Parce qu'on va dire nous sommes toujours dans une pensée de l'unité, sauf que cette unité, elle est plus complexe, elle est lisible par le docteur. Vous voyez? Alors bon, effectivement, je pense en termes de niveau émergent, hein, c'est un niveau d'émergence, hein, le sous-bassement, le niveau d'émergence, et je reprends bien entendu cette belle formule de Deleuze, que c'est certes, les hommes, ce sont des îles isolées les unes des autres, mais les îles, dit Deleuze, ce sont les plis de la mer. N'est-ce pas? C'est-à-dire, bon, que c'est une façon d'exprimer avec une belle métaphore les modes d'être par rapport à la substance. Dans les niveaux d'émergence, si on peut, il y a plusieurs niveaux d'émergence qui constituent la multiplicité de chaque être humain. Effectivement, on peut dire que l'information qui n'est jamais suffisante pour réagir, nous pouvons l'opposer à la connaissance. La connaissance, c'est ce qui inclut la multiplicité que nous sommes. En tant que la formation, c'est toujours ce qui arrive à la terrasse, hein, ce qui arrive à la terrasse et qui ne trouvera jamais la glande de pinéale de Descartes. Alors, ces mois non centralisés, nous pouvons les penser par rapport à ces phénomènes humains et sociaux, qui est l'idée de que, au fait, ce qui nous arrive, ce que nous faisons, c'est à quoi nous devons nous identifier en tant que société, en tant qu'individu, en tant que personne, peu importe, en tant que couple, en tant que groupe d'amis, en tant que groupe d'amis plus chien, plus maison, n'est-ce pas? Ces ensembles comme ça qui constituent des situations et des paysages, ils s'inscrivent toujours dans une profonde discontinuité entre les sous-bassements et la résultante. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand quelqu'un vient vous voir, parlons là, par exemple, dans le cas individuel, quelqu'un vient vous voir et dit, écoutez docteur, moi, dans ma vie, j'ai fait A, B, C, toujours, et voilà que je suis devenu Z, X. C'est-à-dire une résultante qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. Vous comprenez? Alors, la personne doit s'identifier avec quelque chose qu'il vit, à juste titre, comme en discontinuité avec ce qu'elle a fait. Cette discontinuité-là, cette résultante-là, la psychanalyse a deux possibilités, ou la psy a deux possibilités. Soit on cherche une cohérence pour dire, non mais si vous êtes dans telle résultante, on va éliminer la discontinuité, voyez, entre ce que vous avez fait et la résultante. On va inventer une continuité. Ou bien, on doit accepter que la discontinuité de cette résultante des processus permanents que nous sommes, cette discontinuité est la preuve concrète de que nous sommes inscrits dans une multiplicité que nous maîtrisons pas. N'est-ce pas? C'est-à-dire, alors vous savez, c'est pareil quand on dit par rapport à une société. Par rapport à une société, on dit, mais pourtant, vous voyez bien, on a fait ci, on a fait ça, on a tout bien. Et tout, on se trouve avec telle résultante. Une dictature, une démocratie, peu importe, ou une insurrection, peu importe. On trouve une résultante. À chaque fois qu'on essaye, bref, de comprendre la résultante dans laquelle nous sommes, comme si elle était la somme des processus linéaires, on se casse la gueule. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre les résultantes dans lesquelles nous existons à travers une linéarité des processus du sous-bassement.
Contrebande d'alcool pour fournir les députés qui picolent, et avec les célébrités, on passera des nuits.
Alors, vous avez la psychanalyse, la psychothérapie. Tout tendance confondue, et parle quand même à un moment donné du choix. C'est un problème. En tant que thérapeute, à un moment donné, et se pose la question du choix. Mais qu'est-ce qu'il va choisir, le patient? Et voilà, est-ce qu'il va choisir aller vers la pulsion des morts, ou vers la vie, ou vers les désirs, ou vers je verrai. Qu'est-ce qu'il va choisir, quoi? Comment faire pour choisir une fois qu'il a pigé deux ou trois trucs? Et ça, c'est le moment métaphysique dans la psychothérapie, comme c'est le moment métaphysique dans la société. Pourquoi? Parce que, au fait, là, on part d'un des mythes centrales, comme ça, de la modernité, qui est celui du moment du choix. Alors, vous savez, le moment du choix a été illustré très très bien par l'un des Buridan. Alors, on ne sait pas pourquoi est-ce que Buridan détestait les ânes à ce point-là, comme pour le faire une si mauvaise publicité. Parce que Buridan, il objectivement, je pense que Brigitte Bardot devrait faire quelque chose, parce que Buridan, il traite des débiles aux ânes. Et les ânes ne sont pas si débiles que ça. Parce que Buridan, qu'est-ce qu'il imagine? Buridan, il imagine un très joli et gentil âne qui est dans un point équidistant de deux meules de foin. Et l'âne, qu'est-ce qui se passe? L'équidistance, c'est important dans les dispositifs de nominalistes Buridan, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'équidistance veut dire là, on peut pas, dans ces bas-mondes, éliminer les surdéterminations. Mais ce qu'on peut faire, c'est les éliminer par équidistance, par symétrie, n'est-ce pas? En créant une symétrie des surdéterminations, on se trouverait un point dans lequel il n'y a aucune surdétermination qui est plus forte que l'autre, vous comprenez? Donc, si on met un âne dans un point central équidistant des surdéterminations, qu'est-ce qu'il va faire l'âne? Il va crever la dalle parce qu'effectivement, il ne pourra pas choisir. Il ne pourra pas choisir. Alors, bien entendu que les ânes vrais, ils se bouffent la meule de gauche ou de droite, ça dépend qui se présente aux élections. Et après, ça bouffe tout, quoi, de tout ce qui existe, quoi, la laisse, tout, voilà, la bride, bon, voilà. Et alors l'âne, il est très content parce qu'il y avait deux meules, grâce à Monsieur Bourridon, normalement, il y avait une seule à bouffer. Le seul qui meurt au milieu, c'est Bourridon.
Bah oui.
Voilà, Bourridon, et voilà, il y a un cassoulet d'un côté, une bouillabaisse de l'autre, et le mec, il dit, bah, comment faire? Alors, il bouge pas. Parce que, mais Bourridon, il donne là la solution. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand vous êtes à équidistance, dans un équilibre parfait, il y a quelque chose qui va venir décider. Cette quelque chose-là est, effectivement, le libre arbitre. Alors le libre arbitre, il arrive comme ça sur vous, et tel un papillon de liberté totale, dit droite, gauche, voilà. S'il est plus libre, il choisit la meule de gauche, s'il est plus arbitre, il choisit la meule de droite. Et alors effectivement, cette équidistance-là est le moins fort américain, de la psychologie américaine. C'est-à-dire, c'est le moins qui peut décider, on décide. C'est-à-dire, voilà, entre la lessive qui lave blanc et l'autre qui lave plus blanc que blanc, vous voyez. Et l'autre jour, j'étais à Millau, dans la ville de Millau, et alors j'arrive dans un hôtel, peu importe, une chaîne, et il y avait deux hôtels de deux chaînes dans le même bureau, non. Et alors j'arrive, et le mec me dit, j'ai demandé trois chambres pour les amis, et il me dit, mais si vous êtes dans telle chaîne, je dis oui, d'accord, et alors, il me dit, mais si on passe à la chaîne d'à côté, c'est moins cher. C'était le même immeuble, n'est-ce pas? Alors moi, minable comme je suis, j'ai dit non, passons à la chaîne d'à côté. Non, il y a des surdéterminations comme ça. Et alors donc, je passe à la chaîne d'à côté. Et alors, quand même, j'étais un peu gêné envers mes amis d'avoir choisi la moins chère. Mais effectivement, souvent, les choix du libre arbitre est comme ça. C'est-à-dire, entre les mêmes et mêmes, on choisit celui qui est le plus cher parce que, au moins, faute d'avoir une différence quelconque, c'est plus cher. N'est-ce pas? C'est mieux. Or, à vrai dire, qu'est-ce qui se passe avec l'âne de Bourridon, avec nous tous? Si nous abandonnons l'idée de la conscience libre qui choisit, ce que nous pouvons dire, c'est que toute décision et choix est la forme plus ou moins narcissique qu'on a de nommer quelque chose dans lequel nous sommes engagés déjà depuis longtemps. Quand quelqu'un vous dit « j'ai décidé de faire ci », ce qui veut dire c'est « je viens d'être au courant, j'étais mis au courant par mon corps, par la réalité, par quelqu'un qui m'a dit, je viens d'être au courant de ce que, de la voie dans laquelle je suis déjà décidé. Je suis déjà là, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que l'équidistance n'existe pas dans ces bas mondes. N'est-ce pas ? Bon, il suffit d'attendre un peu, dans l'autre monde peut-être, mais dans celui-ci, il n'existe pas. Donc nous sommes déjà choisis. La multiplicité, c'est ça. La multiplicité, c'est nous sommes déjà choisis. Nous sommes déjà choisis, nous sommes déjà décidés. Et en toute situation, il n'y a jamais une équidistance, il n'y a jamais une symétrie. La question de la politique, comme la question de l'époque, comme la question de la société, dans nos consultations, est la question justement de par quoi nous sommes déjà choisis. Où sont les asymétries? On n'a pas besoin d'avoir un programme politique ou philosophique pour écouter nos patients. Il suffit simplement de nous rendre présents aux asymétries que dans la situation se dégage d'elle seule. Alors, de ce point de vue-là, effectivement, il faut opposer un tout petit peu l'idée de que tout est pathologique ou grave à l'idée qu'il y a une dimension du tragique dans la vie. Alors, le tragique dans la vie, ça veut dire, bah, voilà, c'est-à-dire, nous sommes responsables de ce qu'on n'a pas choisi. Hein? C'est-à-dire, nous sommes responsables de ce qu'on n'a pas choisi. Si on était responsable seulement de ce qu'on a choisi, ça serait très drôle, un exercice à faire pour un doctorant, si vous voulez l'emmerder un peu. Vous dites, bon, tu cherches, tu fais une enquête pour savoir les gens, de quoi sont responsables vraiment des choix qu'ils ont faits. Et vous verrez que, mis à part les chaussettes bleues, foncées ou noires, ou mis à part, je sais rien, j'ai aucune idée de quoi on serait responsable si on était responsable seulement de ce qu'on a choisi. Vous voyez? Alors, les tragiques, c'est ça. Bah, la dimension des tragiques qu'on essaie de nous escamoter avec les mondes disciplinaires, les mondes dans lesquels l'histoire de chacun de nous devient une histoire clinique, n'est-ce pas? C'est un monde qui essaie d'escamoter ces tragiques-là. Essaie d'escamoter les liens dans lesquels nous sommes. Je vous donne une petite, comme on dit, vignette clinique. Depuis quelques temps, je me suis, entre guillemets, spécialisé, depuis quelques années, dans les enfants adoptés à l'étranger. Pourquoi? Parce que j'ai constaté à travers une dizaine des cas que j'ai vus, et donc après les collègues, j'ai fait un appel à, c'est-à-dire qu'ils m'ont notifié des autres cas, On a constaté, on a cru constater, en tout cas pour le moment, que les enfants adoptés à l'étranger par des familles françaises, vers l'âge de 10, 11, 12 ans, bon, c'est variable, ils connaissent des crises terribles, mais terribles. Certaines crises sont, comme on dit dans les métiers, aller-retour, et il y en a beaucoup qui sont aller-simple. Alors, donc l'adoption des enfants étrangers, tout à coup, pose la question des liens. Parce que ça veut dire que moi, je considère que quelqu'un qui est dans un bidonville de Rio, il peut être mieux chez moi à Paris, du fait qu'à Paris, il y a des vaccinations, il aura frais en été, chaud en hiver, vous voyez. Donc, que du fait que je peux lui offrir du confort, il sera mieux. Or, je ne critique pas moralement du tout ça. Chacun fait ce qu'il doit faire et il s'arrange avec ce qu'il fait. Simplement, on voit bien là comme il y a une dénégation des liens qui constituent un individu. Comme là, dans la croyance qu'un individu ne serait pas lié au paysage qui le constitue, peut être pathogène. C'est-à-dire l'idée de que je peux prendre un individu et seulement pour des considérations utilitaristes, panoptiques, énonçables, c'est un bien pour lui, eh bien, ça peut être pathogène. Alors, bon, mis à part qu'effectivement, la petite blague, c'est que c'est un drôle de rapport nord-sud, c'est une entre parenthèses, parce que, par exemple, imaginez-vous une noire d'une favelle de Rio qui vient en Suisse, adopter un petit Suisse, parce qu'il a toujours bien aimé les petits blonds à la peau pâle, voyez, l'air maladif. Et alors, non, c'est-à-dire ça n'arrive pas, voyez, c'est-à-dire donc c'est en plus un rapport nord-sud qui... Donc, mais c'est pas une parenthèse hors sujet. C'est tous ces liens-là, le fait de que je suis dans des rapports nord-sud. Les rapports nord-sud, c'est pas quelque chose que je lis dans des mauvais journaux. Les rapports nord-sud, c'est, voilà, ça. C'est-à-dire, c'est ce que je suis en train de refouler quand je nie qu'il y a ces rapports-là. Les liens, c'est ce que je refoule quand je pense qu'un individu est exportable, vous voyez. Mais à part ça, effectivement, en tant que clinicien, je n'ai aucune critique ou pas critique à faire. Je constate simplement qu'il y a là un refoulement de cette multiplicité, effectivement, que nous sommes chacun de nous. Vous savez, à l'Institut, j'avais, à l'Institut de psychanalyse de Paris, donc, j'avais appris quand j'étais en formation que quand un patient arrive, je dois faire alliance avec son noyau sang. Excusez-moi. Non, c'est nerveux, c'est pas grave. Non, c'est pas un manque de respect envers mes maîtres. Donc, les noyaux sang, c'est-à-dire qu'ils se pointent, Popol se pointe, tu vois, et Popol, par exemple, il est alcoolo au dernier degré, quoi. Il a une histoire d'amour avec la bouteille, il y a des trucs avec la bouteille. Et vous ne voyez pas Popol. Popol n'existe pas. Vous regardez avec vos yeux des psychanalystes les noyaux sains. Alors, une fois que vous avez trouvé les noyaux sains, vous faites alliance avec les noyaux sains. Et alors donc, quand vous faites alliance avec les noyaux sains, ça veut dire qu'au fait, vous n'êtes pas du tout en train, du tout, ça sont des conneries des gauchistes, vous n'êtes pas du tout en train de discipliner Popol, du tout. Vous avez trouvé les noyaux sains que Popol ignorait absolument, ou l'avoir. Alors, déjà, les noyaux sains, au moins, je peux vous dire, c'est certainement, il est au dos. Vous cherchez des côtés du dos parce qu'il a jamais vu Popol, vous voyez. Alors, donc, vous cherchez les noyaux sains, vous faites alliance à les noyaux sains, et petit à petit, vous arrivez donc à faire que Popol déteste la bouteille. Bon, très bien. Alors, effectivement, l'éthique qui se dégage de ça va de soi comme un corollaire qui tombe tout seul. Un corollaire nécessaire, c'est l'éthique dans le sens spinoziste, c'est-à-dire c'est non-savoir. C'est-à-dire, si je peux encore accueillir quelqu'un dans mon cabinet, je ne peux l'accueillir qu'à partir de ces non-savoirs. C'est-à-dire, j'en sais rien. J'en sais rien s'il a un noyau sain ou même s'il a un noyau. Et je pense quand même, avec plus de 20 ans de pratique clinique, qu'effectivement, il y a quand même une demande qui est une demande aliénée. On peut pas nier quand même. C'est-à-dire que vous savez, la plupart des collègues, ils se lavent les mains, mais ils s'archi-lavent les mains à la Pilatos, et en disant, mais moi, je travaille parce qu'il y a une demande. Donc, il y a une souffrance, je réponds. Je me souviens une fois dans le comité national d'éthique, à l'époque où j'étais archi-consultative et bordélique, il y avait un monsieur, un docteur, très docteur, qui, il dit, moi j'ai ma salle d'attente, parce que c'était la question des, voilà, on pouvait maintenant faire des enfants, des femmes qui étaient jusque-là stériles. N'est-ce pas? Et alors donc il disait, j'ai ma salle d'attente pleine de femmes qui pleurent. Et alors, bon, ce qu'ils entendaient par là, c'est-à-dire que les femmes pleuraient parce qu'elles étaient stériles, et rentraient dans les cabinets, et après elles sortaient avec un Kleenex et enceintes. Et alors, donc, bon, j'ai conseillé déjà à mes copines quand même de pas passer en pleurant à côté de ce docteur-là, parce que... c'est-à-dire, c'était quand même très dangereux. Mais vous comprenez, la demande de ces femmes qui pleurent, vous savez, le problème de la demande, c'est comment être dans nos sociétés une femme entre 25 et 40 ans, et dire, je n'ai absolument aucune envie d'avoir un môme qui me casse les pieds. On peut pas dire ça. Si vous dites ça, vous avez deux problèmes. Vous avez un rendez-vous avec madame la psychologue, qui a un sourire comme ça, de paralysie faciale, qui vous reçoit, vous dites, pourquoi elle sourit tout le temps, les psychologues, on sait pas. Et donc, d'abord, vous voyez la psychologue pour permettre d'émerger la demande de votre noyau sain. Et après, vous voyez le docteur qui vous fout un enfant parce que vous pleurez. Et alors donc, vous avez avant, jadis, il n'y a pas si longtemps que ça, Garcia Lorca, il faisait avec germe de la femme stérile, faisait un poème, quoi, une pièce de théâtre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, en plus, on sait tous, parce que la stérilité féminine, ça a été pendant longtemps, et ça reste certainement dans pas mal de pays, comme une sorte de territoire de résistance au patriarcat. Parce que la femme, elle est convaincue avec sa tête, avec sa terrasse, elle est convaincue qu'elle va faire 10 enfants à l'idiot qui là-bas. Mais le corps ne peut pas. Il peut pas, voilà, il peut pas. Alors donc, tout à coup, l'effet de prendre les gens au mot, c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire dans la clinique. C'est pas parce que quelqu'un dit « je vais être normalisé, docteur » que nous avons les mains propres. Nous n'avons pas les mains propres parce qu'il y a une demande dite. Parce que qu'est-ce qui peut dire d'autre, l'alcoolo qui vient vous voir dans votre service, les toxicos qui viennent vous voir, la femme qui n'a pas des enfants, les trop gros, les trop maigres, les trop, je ne sais rien. Qu'est-ce qui peut dire d'autre que normalisez-moi, docteur? Hein? Et vous, alors, ah, voilà, les noyaux sains viennent de s'exprimer. Et alors donc, effectivement, il faut tenir en compte de ça. La multiplicité veut dire ça. Veut dire que, par exemple, peut-être une femme peut être archi convaincue qu'il veut avoir un enfant dans sa tête, mais si son corps ne le fait pas, on se dit, ça doit pas être pour rien. N'est-ce pas? Donc, aller mollo, quoi. Dans tous les cas, aller mollo. Je dis pas qu'il faut pas travailler, mais il faut aller mollo. Alors, l'être humain, l'individu, dans ce sens-là, on doit pouvoir différencier les envies, donc, tout à fait aliénées, formatées, du désir. Le désir est quelque chose qui nous traverse. Le désir, il vient de l'époque, il vient du paysage, il vient des situations que nous traversons. Le désir n'est jamais endogène à l'individu, ne vient pas de l'individu, le désir. C'est-à-dire, quand un patient vous dit, mais à quoi bon faire ci ou faire ça? Là, il y a un narcissisme terrible. Parce que c'est pas à nous de dire à quoi bon faire ci ou ça. Il y a un non-savoir. Il y a un non-savoir de nous-mêmes envers nous-mêmes, qui est quand même déjà ses débuts d'éthique. Oh yeah. Alors, quelques derniers mots simplement. C'est vrai que la neurophysiologie aujourd'hui inquiète énormément les précieuses ridicules que sont mes collègues. Et c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Parce que vous imaginez quelqu'un qui ça fait 5, 10, 20, 30 ans qui travaille dans la psychanalyse. Pourquoi serait inquiété des parts, des découvertes rendues possibles depuis la technique médicale? Pourquoi est-ce qu'on serait, nous, pas aussi ravis de finalement voir comment que certains processus fonctionnent? N'est-ce pas? On n'a pas dévoilé, on n'a pas mis à poil l'âme de quiconque. On peut voir certains processus, on peut établir des concomitances. Pourquoi est-ce qu'on serait si gêné? Eh bien, moi je pense quand même que ça c'est un des rendez-vous que la psychanalyse maintenant a loupé. Varela, Francisco Varela, de qui j'étais quand même ami et que je respecte beaucoup et que je continue à étudier, avait essayé de faire un dialogue avec des psychanalystes là-dessus. Il y a eu 2 ou 3 psychanalystes qui sont venus dans ces dialogues-là, mais quand même, bon, ça n'a pas prospéré. Et je pense quand même que la neurophysiologie est asémantique, c'est-à-dire que ce qu'on découvre dans la neurophysiologie ne veut rien dire, ne veut dire ni que la vie psychique est comme ça, ni qu'il est comme ci. Hein? Simplement dit le comment de certaines choses. Je pense que l'homme neuronal échangeux n'est pas le corollaire de la psychanalyse, de la neurophysiologie. L'homme neuronal est une erreur théorique de parcours, c'est-à-dire parce qu'il nie les côtés épigénétiques des processus cérébraux, c'est-à-dire que effectivement et corporel, c'est-à-dire qu'effectivement les cerveaux aussi surdéterminés que soient-ils, il n'est pas une machine état discret, voilà, c'est tout. C'est-à-dire alors les hardware, comme ça, la machine quoi. Si j'étais sûr que personne, ah ouais, merci. La machine, n'est-ce pas, qui soutient les processus de l'informatique dans un ordinateur n'est pas comparable au corps, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous pouvez faire un micro-ordinateur, un maxi-ordinateur, un ordinateur comme ci ou comme ça, et c'est pas pareil qu'un corps. C'est-à-dire les corps pensent dans une unité, et le cerveau, le cerveau ne pense pas. Le cerveau participe à une combinatoire assez autonome qui est la pensée, et la pensée elle-même est une combinatoire qui connaît des processus changeants en permanence. Donc là, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec l'homme neuronal, mais même y compris par rapport aux hypothèses de l'homme neuronal, il faut reconnaître qu'à l'époque, c'était quand même un enthousiasme d'époque, et on n'a pas à réagir, parce que la question si la psychanalyse est scientifique ou pas, à mon avis, ça fait longtemps qu'on ne se la pose plus, on se pose la question si elle est rationnelle ou pas, n'est-ce pas? Alors, on n'a pas, d'un point de vue ne serait-ce que rationnel, et être scandalisé par des avancées de la technique qui mettent en cause des dogmes, etc. Au contraire, on est très content que ça mette en cause les dogmes. Alors pour finir, effectivement, je pense quand même que le non-savoir, vous savez comme écrit Spinoza, on ne sait jamais ce qu'il y a encore peu, c'est-à-dire ces non-savoirs-là est vraiment la base de l'éthique et de l'éthique thérapeutique, entre autres. Et Spinoza, il écrit que les idées, ce sont des modifications du corps. Hein, les idées, ce sont des modifications du corps. Hein, voilà la différence aussi avec l'homme neuronal. Hein, c'est-à-dire les idées, les programmes qui travaillent en ordinateur ne sont jamais, en quoi que ce soit, les modifications de la machine, hein, de vis, de petits câbles, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, j'imagine, j'ai aucune idée. Mais dans tous les cas, les idées sont des modifications du corps. Et ces corps-là, ils existent dans, pour et par des multiplicités qui s'agencent et se séparent, et se désagencent en permanence. Et en permanence, il y a cette résultante qui est en discontinuité avec les soubassements et qui nous met dans un non-savoir comme celle attitude, non pas d'ignorance, mais comme attitude qui marque un hiatus entre nous et l'acte de discipline, entre nous et l'acte de s'allier au noyau sans, soi-disant, pour discipliner l'autre. Alors donc, pour finir là vraiment, la résistance, puisque Madame Stenger parlait hier de résistance quand même à certaines choses, la résistance passe à résister aujourd'hui à la demande d'efficacité de la part des chefs de service, de la part de la société, de la part même des patients, ou de la part de nous-mêmes, parce que le problème, c'est que nous sommes dans une situation aujourd'hui dans le monde dans laquelle l'efficacité ne veut pas dire une seule chose. L'efficacité, ça dépend dans quel projet. Je me souviens un temps dans lequel les lieux de vie qui venaient de la psychiatrie alternative ont commencé à tomber. Et alors on voyait que les gens qui dirigeaient ces lieux de vie-là, ils se mettaient en rivalité avec les services de psychiatrie classiques en disant « on est plus efficace que vous ». Là, on était perdu. Parce qu'effectivement, la question, c'était... Mais on n'est pas dans la même efficacité. On est efficace par rapport à un projet. Et alors, il faut quand même pouvoir non pas dire, nier la possibilité d'être efficace, du tout, du tout. Il ne faut pas réclamer un droit à faire n'importe quoi, bien entendu. Simplement, il faut problématiser l'idée d'efficacité. Ça, c'est un point de résistance aujourd'hui. Il faut dire, mais efficace dans quel projet? Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a monopole de l'efficacité par l'utilitarisme, la discipline, l'économicisme, etc. Et questionner l'efficacité est pour moi, pratiquement, en tant que clinicien, déjà un premier pas de résistance, parce que quand on voit quelqu'un, eh bien, déjà, on doit se mettre d'accord sur le fait efficace par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à où?
Philippe Pignard.
Tout à l'heure, tu as expliqué, c'était ta rencontre avec, par exemple, avec comme psychanalyste invité par un groupe militant. Effectivement, la situation dans laquelle tu racontes ou t'es confronté, c'est quelque part, ils te disent à un moment donné qu'il y a un vrai problème. C'est pour ça que ça m'intéresse, parce que j'ai connu cette situation dans d'autres... ça évoque d'autres situations pour moi qui me semblent intéressantes, où ils te disent, oh là là, quand on nous fait cette description, on est encore plus démoralisé qu'on était au départ. C'est ça qui m'intéresse. parce que c'est un groupe que, enfin, c'est une situation politique que j'ai pu, moi j'ai vu récemment dans un contexte un peu semblable ou un peu différent, mais dans le quartier où j'habite, dans le 18e, une conférence où on invite, donc où il y a toutes les associations militantes qui sont présentes sur la toxicomanie, sur toutes les prises en charge qui existent dans le 18e arrondissement, et on invite au cours d'un congrès des sociologues, des psychologues, enfin toute une série d'intellectuels à venir discuter et parler, et les gens en sortent, effectivement, à un moment donné, oh là là, on a encore plus démoralisé, finalement on peut rien faire. C'est-à-dire que vous nous avez encore plus démoralisé qu'on était au départ, c'est-à-dire que vous nous avez expliqué, effectivement, qu'on vivait une époque obscure, vous nous avez expliqué que c'était, etc. Et du coup, j'ai envie de dire que, quelque part, ça c'est, pour moi c'est un vrai problème, parce que puisqu'on discute de psychanalyse et dimension politique, c'est un vrai problème au sens où quel rapport entre le petit et le grand, c'est-à-dire les petits, tout ce qui relève du petit, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut agir, etc., et le grand, la société, etc. Et j'ai envie de dire que finalement, on peut commencer à faire de la politique. Pour commencer à faire de la politique, ça veut dire faire de la... Ce que j'ai envie de dire aux sociologues, c'est de faire de la sociologie sans jamais parler de la société, et aux psychologues, faire de la psychologie sans jamais parler de psychisme. C'est-à-dire de ne s'intéresser qu'aux mécanismes fabricateurs, mais jamais à ce que nous pensons être les résultats, le psychisme d'un côté, quand on est dans le petit, ou la société, comme ça, qui nous domine, qui nous écrase, et qui fait qu'on peut plus rien faire. Comment se situe au milieu? Comment est dans les mécanismes de fabrication? Donc, qu'est-ce qui se fabrique à cet endroit? Et finalement, c'est un problème intéressant pour un psychologue, quand il est en consultation avec des patients aussi. Enfin, moi, j'ai appris ça beaucoup dans les consultations en ethnopsychiatrie, où finalement, en ethnopsychiatrie, ce qui est intéressant dans une consultation, c'est qu'est-ce qui se fabrique à ce moment-là? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir fabriquer ensemble? Et là, c'est vrai qu'à ce moment-là, on trouve plein moyen de gripper la machine. Au sens où faire de la politique, c'est souvent gripper. De trouver les endroits où on peut gripper la machine. Et donc, à ce moment-là, d'un seul coup, à ce moment-là, à mon avis, on retrouve de la multiplicité. C'est-à-dire qu'on réinvente de la multiplicité. On refabrique et j'ai souvent été frappé dans ces réunions, justement, où on invitait souvent, par exemple, les sociologues bourdieusiens. Il n'y a pas pire qu'un sociologue bourdieusien pour démoraliser toute une assemblée de militants. Mais oui, il n'y a pas pire. Parce que vous amenez un sociologue bourdieusien face à une assemblée de militants, les militants en sortent en disant on peut rien faire. On est écrasé par des mécanismes qui sont tellement puissants autour de nous, une société, etc., que tout ce qu'on fera sert à rien.
Bon, moi je suis tout à fait d'accord, c'est exactement, tu as très bien expliqué la position, parce que je pense on travaille avec ce qu'on a construit plus ou moins, n'est-ce pas? Alors, moi, pour X raisons, peu importe, j'aime beaucoup Sartre, mais je considère que, par exemple, une des pires des choses, il a fait beaucoup de choses pires, alors il n'y a pas de palmarès, mais quand il dit « il faut pas désespérer Billancourt », s'il y a quelque chose que je déteste, c'est ça. C'est-à-dire l'idée de se sentir tellement au-dessus de la mêlée que tu ne vas pas dire la vérité aux ouvriers parce que tu ne peux pas les désespérer. Moi, je pense profondément que, et alors là, effectivement, avec l'espoir comme passion triste, n'est-ce pas? Et je pense quand même que la seule position, disons, de radicalité, de vie, de liberté, est d'accepter un certain désespoir. Mais désespoir, ça ne veut pas dire être démotivé ou n'être pas désirant, c'est-à-dire. Alors, par rapport à ça, effectivement, il y a une haine de la part du militant comme de la part du thérapeute, que c'est les avant-gardes qui savent qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pour ça que le parallèle n'est pas trop osé. Et il y a une haine du devenir, c'est-à-dire qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'il faut faire d'une fois pour toutes. N'est-ce pas? Alors, je me souviens, il y a quelques temps, je parlais dans une assemblée autre, et alors j'ai dit, bon, je donne l'exemple du féminisme. J'ai dit, les luttes féministes, quelles qu'elles soient, à mon point de vue, ne connaîtront jamais de fin. Pourquoi? Parce que, effectivement, ce que François Héritier appelle la balance négative, ou bon, enfin, l'effet de dire, si depuis les néolithiques, les femmes sont dans certaines positions, il n'y a aucune raison qu'on trouve la molécule qui va changer. Donc, si il y a quelque chose qui ne reste pas dans une attention, dans une lutte, dans une position comme ça d'engagement de la part du mouvement des femmes, etc., bah, ça retombe dans la domination masculine. Et alors une femme me dit, mais c'est horrible ce que vous dites là, parce que moi j'ai 70 ans, je me suis battu pour le féminisme, donc on n'arrivera jamais. Et c'est terrible de dire ça, parce que c'est comme si quelqu'un disait, je vais bouffer du bon foie pour toutes. Vous voyez? Voilà, je vais beaucoup, beaucoup bouffer, et après, comme ça, j'aurai plus à bouffer. Alors, s'engager, ça serait ça. Je m'engage une fois et après c'est fini. Et c'est la haine de la vie, c'est la haine du devenir, c'est la haine de la multiplicité. De dire, d'une fois pour toutes.
Écoutez, note les mots du conte, conte qu'on raconte quand le soleil vient froid, froid.
C'était Éloge du savoir. Ce matin, le colloque de Bruxelles avec Miguel Benassayag. Discussion, Philippe Pignard. Équipe de réalisation, Michel Cazenave, Isabelle Huel, Christine Goémé.